Vous êtes sur RTL.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Louis Alliot, député du Rassemblement National des Pyrénées-Orientales.
Et merci d'être dans ce studio d'RTL. Bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
D'abord, le Sénat a enterré hier soir l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église. La demande était partie de l'Assemblée où vous siégez. C'est un manque de courage, comme le disent les victimes.
C'est-à-dire que face à ces actes-là, il y a la loi pénale, et ce sont aux juges aussi à faire leur travail. Et après, d'ailleurs, je viens de déposer moi une proposition de loi pour écarter définitivement du contact des enfants toute personne qui aurait été déjà condamnée ou en tout cas mise en cause dans les affaires de pédophilie. Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup, même dans l'éducation nationale par exemple, sont condamnés ou en tout cas écartés d'un certain nombre de choses, mais qu'on les remet systématiquement au contact des enfants, ce qui me paraît être une aberration. Donc j'ai déposé une proposition de loi pour permettre cela.
C'est très bien, mais ce travail de transparence pour comprendre comment une institution comme l'Église peut avoir généré des dérives criminelles, est-ce que vous seriez d'accord pour que les parlementaires...
Moi, je pense que ce n'est pas le rôle du parlementaire. Ou alors, il faut l'élargir à toutes les structures qui accueillent des enfants. Parce que ça existe dans les colonies de vacances.
Vous voulez dire à toutes les religions ou à toutes les structures ?
Non. Ça existe dans les colonies de vacances, ça existe à l'éducation nationale, ça existe à tous ceux qui sont en contact avec des enfants.
Oui, mais là, il y a quand même un cas particulier dans l'Église, de l'Église catholique.
Il y a autant de cas...
Pourquoi ne pas le faire spécifiquement pour l'Église catholique qui connaît, c'est vrai, une série de drames.
Il y a autant de cas dans l'Église catholique que dans les autres corps qui sont au contact avec les enfants.
C'est-à-dire
l'éducation nationale.
C'est-à-dire que vous voulez une commission d'enquête parlementaire sur l'éducation nationale
sur le phénomène pédophile au sein d'institutions qui sont en contact avec des enfants.
Il n'y a aucune particularité de l'Église par rapport à ce drame de la pédophilie. Aucune.
Mais écoutez, l'important...
Pour vous, un prêtre qui, par exemple...
Attendez, c'est grave ce que vous dites, parce que vous généralisez. Donc, l'Église, systématiquement, est suspectée de pédophilie.
Je ne l'ai pas fait, je vous pose la question.
Moi, je vous dis qu'il y a d'autres structures qui sont au contact d'enfants et qui ont les mêmes problèmes avec la pédophilie. Et qui, donc, il faut élargir le débat et pas se focaliser sur l'Église, qui, c'est vrai, a beaucoup de problèmes avec ce sujet-là. Voilà. Donc, mais ce n'est pas que l'Église.
Une fois pour toutes, donc vous n'auriez pas voté en faveur de cette commission parlementaire si vous aviez été à la commission des lois.
Sauf s'ils avaient élargi le débat de la pédophilie à toutes les structures qui accueillent des enfants.
C'est vrai qu'il y a des citoyens qui peuvent se dire on fait une commission d'enquête parlementaire au Sénat sur l'affaire Benalla et on ne le fait pas sur l'Église catholique parce que l'argument en fait de la commission des lois au Sénat, c'est de dire qu'il y a déjà des enquêtes judiciaires. Ils vont se dire, il y a une différence de traitement.
Ça appartient au Sénat, je n'en sais rien. Moi, on ne m'a pas demandé mon avis d'ailleurs à l'Assemblée nationale, mais peut-être le feront-ils.
Au nom de l'intégration à l'Assemblée nationale, justement, une partie de la majorité a voté contre l'avis du gouvernement un crédit d'impôt pour les personnes qui acceptent d'héberger gratuitement des réfugiés qui résident en France depuis au moins un an. 5 euros par nuit.
Oui, mais c'est le fonds de commerce de mon collègue député. Il ne parle que de ça.
Aurélien Taché, vous voulez dire l'auteur de
Il est omnubilé par ça. Il ne parle que de ça. Il est focalisé sur ça. C'est un obsessionnel de la question. Il a réussi à faire passer son amendement. Mais voilà, ça prouve une certaine orientation politique, idéologique, qui n'est pas celle que je défends. Et qu'à mon avis, d'ailleurs, une majorité de ce Parlement et de cette Assemblée ne défendra pas. C'est un amendement qui est passé, je ne suis pas persuadé qu'il a jusqu'au bout.
Exactement, il y aura de nouvelles lectures. Vous demandez au gouvernement de faire en sorte que définitivement il ne soit pas adapté.
Bien sûr, surtout que pour le coup, le gouvernement était contre.
Louis Alliot, quand on se moque de votre accent, vous le prenez bien, avec humour, ou vous pouvez trouver en face à vous une forme de mépris?
Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait une forme de mépris, et ça c'est très politique, par rapport au monde parisien. Le monde politique est parisien. Tout est parisien. Et dès que vous avez un accent, déjà, vous êtes, je ne vais pas dire marginalisé, mais vous vous singularisez par rapport aux autres. Alors, ça peut être un désavantage, un inconvénient, mais c'est aussi, quelquefois, un avantage.
Vous voyez à quoi je fais allusion.
Oui, oui. Mais regardez, dans la vie politique, très peu d'hommes politiques ont des accents. Moi, le plus connu, c'est Gaudin, qui doit rester. C'est Lassalle, maintenant.
Est-ce qu'il y a du mépris chez Jean-Luc Mélenchon? C'est ça, évidemment.
Mais dans la forme,
puisqu'hier, il s'est moqué d'une journaliste qui lui posait une question avec un accent, en plus, plutôt du Sud-Est.
Non, mais Jean-Luc Mélenchon est méprisant. Il est dans une dérive, c'est parce que c'est un extrémiste. Enfin, pour moi, je l'ai toujours considéré comme tel. C'est un extrémiste.
Mais vous l'avez applaudi sur les bancs de l'Assemblée, oui, mardi dernier.
Je l'ai applaudi, oui, non, mais ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas applaudi sa manière de faire, mais le fond de l'affaire où il a tout à fait raison par rapport au magistrat du parquet. Ça, c'est bien précis. Pas sur sa manière de faire et d'arriver en bande en essayant de tout casser et de faire le coup de poing avec la police et les juges, ça c'est encore autre chose. Le problème là, il est voilà, qu'il se moque du monde, il fait de la provocation, de l'insulte, et c'est vrai qu'il a attrapé cette journaliste sur son accent. Pour quelqu'un qui se fait élire à Marseille, laissez-moi vous dire que ça fait quand même un peu tâche, pour le coup.
Alors, vous dites qu'il y a un problème avec le parquet, vous le savez, parce que le Premier ministre vous l'a dit dès mardi, quand il a répondu justement à Jean-Luc Mélenchon, après son interpellation. Ça n'est pas un procureur du parquet, c'est un juge des libertés, des peines, donc indépendant, qui a ordonné cette perquisition. Donc,
oui, mais c'est quand même.
Pourquoi faites-vous le lien avec.
C'est quand même le parquet. Non, non, c'est le parquet qui saisit d'abord. Et donc, le parquet en France, on le sait, n'est pas, comme on pourrait dire, une institution neutre. D'ailleurs, ça a été condamné par la Cour de justice de l'Europe, qui a dit que le parquet n'était pas une autorité judiciaire indépendante.
Mais en l'occurrence, là, est-ce que vous avez des preuves que le pouvoir politique, comme le dénonce Jean-Luc Mélenchon, a ordonné cette perquisition? Qu'est-ce qui dit qu'il y a eu un ordre?
On n'a pas de preuves, parce que moi, je ne connais pas l'affaire de M. Mélenchon. Parce que M. Mélenchon, là, sur l'affaire de la perquisition, il y avait deux affaires. Il y avait l'affaire des assistants qui nous concerne, mais il y avait surtout l'affaire de ses comptes de campagne, et là, je n'en sais rien. Et s'il a été perquisitionné chez lui, c'est pour l'affaire de ses comptes de campagne, et pas pour l'affaire des assistants. Donc, je ne connais pas le fond de son affaire-là, mais en tout cas, moi, je connais l'affaire des assistants parlementaires. Celle-là, je la connais bien.
Et là, en l'espèce, vous dites que c'est le pouvoir politique qui a ordonné cette perquisition. Je ne parle pas de votre affaire, mais vous dites, voilà, c'est la même chose.
Écoutez, moi, c'est Mme Taubira qui a porté plainte contre moi et qui a mis l'affaire devant les tribunaux. Donc, c'est une justice politique, oui, avec des magistrats, avec le parquet qui engage des poursuites, et les magistrats instructeurs qui font partie d'un syndicat de la magistrature qui appelle à voter Marine Le Pen au deuxième tour d'élection présidentielle. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça.
Est-ce qu'on
dans n'importe quel autre pays, on aurait quand même critiqué ce fait-là.
Alors justement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que vous faites ami-ami avec Orban, qui dans son pays, la Hongrie...
Mais je m'en fous,
parce que
attendez,
vous ne pouvez pas dire...
On fait pas ami-ami. Non, non, écoutez, on fait pas ami-ami. On n'a jamais rencontré M. Orban. Alors ne dites pas, on fait ami-ami.
Mais vous êtes d'accord avec lui. En tout cas, vous, Marine Le Pen, ici même, il y a quelques semaines, faisait l'éloge de sa politique.
Nous sommes d'accord.
Qui a voté une réforme constitutionnelle pour mettre la justice sous son pouvoir.
Nous sommes d'accord pour les mouvements qui mettent en cause le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il est. Je ne suis pas hongrois, je ne suis pas M. Orban, mais M. Orban, pardon, dit des choses vraies et après tout, c'est son pays, les gens qui l'ont élu sur son programme. Moi, je suis français, je m'occupe de mon pays.
Vous serez candidat, vous êtes déjà, pardon, candidat à la candidature pour être tête de liste aux européennes de votre parti. Vous y allez ou vous n'y allez pas?
Écoutez, ça se discute, on est un parti pour le coup démocratique.
Mais on ne sent pas d'un enthousiasme délirant.
Mais ce n'est pas un enthousiasme, c'est une élection européenne, ce n'est pas une élection présidentielle.
Et donc, ça ne suscite pas l'enthousiasme par nature.
C'est un sport d'équipe, la politique. Oui. Voilà, il y aura une équipe en place, parce que nous aurons de nombreux députés. Et si la tête de liste doit être une tête de liste issue du Rassemblement national, je pense être le mieux placé. Mais moi, vous savez, je ne suis pas, je vais pas faire la guerre à personne si je ne suis pas tête de liste. C'est ma nature, je suis comme ça.
Ça peut être moi. En fait, c'est la mairie de Perpignan qui vous intéresse.
Oui, bien sûr.
Et la mairie de Perpignan, ce sera quelques mois après. Alors pourquoi aller aux européennes pour ensuite faire campagne municipale ?
L'un n'empêche pas l'autre, et Perpignan est victime de plein fouet, je vous signale, des méfaits de la politique européenne sur la compétition déloyale des firmes transfrontalières espagnoles, sur l'agriculture, sur l'aménagement du territoire, sur un TGV qui n'arrivera jamais, sur la politique sociale, sur l'immigration, sur le communautaire. Tous les sujets qui sont européens sont aussi perpignanais, donc ce sont deux élections qui m'intéressent, mais il est évident qu'au final, ce sera Perpignan que je choisirai.
Donc, vous assumerez, face aux électeurs, de dire, je me présente aux européennes, mais excusez-moi, cinq mois après, j'irai au municipal de Perpignan. Vous l'assumez?
Mais je l'ai assumé, je vous signale, dans mon élection législative, où je me suis fait élire député des Pyrénées-Orientales, en disant que je visais la mairie de Perpignan. Et les électeurs ont trouvé ça tout à fait normal.
Vous trouvez que c'est une bonne façon de faire de la politique?
Je pense que c'est une bonne façon, parce que le débat européen est un débat d'idées, une confrontation de projets, et n'est pas quelque chose qui... Vous n'êtes pas seul aux européennes, c'est une liste. Quand vous êtes député de la nation, dans une circonscription, vous êtes seul. C'est deux élections bien différentes.
Est-ce que Marine Le Pen votera pour vous quand il s'agira de choisir le candidat tête de liste européenne?
Ben, je ne crois pas. Non, parce qu'elle ne pourra pas, voilà.
Pourquoi elle ne pourra pas?
Ben, elle ne peut pas être à la fois juge et partie. Je pense qu'elle laissera les instances du parti décider par eux-mêmes. Mais il se peut, parce que moi j'entends et je lis beaucoup de choses, que ce ne soit pas non plus un candidat, issu de l'Assemblée nationale.
Finalement, ça pourrait être issu de la société civile.
Mais c'est tout à fait possible. Vous savez, de toute façon, ce sera en janvier. Donc d'ici là, on a le temps de réfléchir.
Merci beaucoup Louis Alliot d'avoir été ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien est à suivre et à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.